Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Antoine Dulster, mais aussi Margot Laurie, dont Bertie Bourdon, Nicolas Sendé, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Edouard Rubinstein. Et comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous allons parler de la France et la Turquie. Ces derniers jours, la crise diplomatique entre Paris et Ankara s'est considérablement aggravée. En effet, alors que les relations étaient déjà très tendues, le président Erdogan accuse désormais son homologue de mener une campagne haineuse à l'égard de l'islam, lui reprochant de défendre les caricatures du prophète et se cacher derrière la liberté d'expression pour s'en prendre musulman, l'invitant même à faire contrôler sa santé mentale. Outre la Turquie, d'autres voix dans le monde musulman se sont levées pour critiquer Emmanuel Macron et pour appeler au boycott des produits français, l'Égypte, le Qatar, le Koweït et d'autres. Alors à quoi faut-il s'attendre? Les escalades verbales pourraient-elles mal tourner? Quel risque a attisé la dimension religieuse dans le différend franco-turc? Et d'ailleurs, pourquoi Erdogan se place en protecteur des croyants? Qu'est-ce que ça révèle de ses ambitions en matière de leadership régional? Pour évoquer ces questions avec nous, nous avons invité ce matin Didier Billion, qui doit être d'ores et déjà avec nous. Bonjour Didier Billion.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes directeur adjoint de l'IRIS, spécialiste de la Turquie. Vous aviez écrit notamment « Géopolitique des mondes arabes », qui était paru chez Erol. Avec nous également Ahmet İnsel, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes économiste, politiste, éditeur. Vous aviez signé, vous, à la découverte, la nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire. Avant d'évoquer la Turquie ensemble, place comme chaque semaine à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. La journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient de Bolivie, c'est Rosa Moussaoui. Bonjour Rosa Moussaoui. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes grand reporter pour l'Humanité. Vous rentrez tout juste de Bolivie. Vous avez passé une quinzaine de jours. Alors, je vais rappeler pour les auditeurs, dimanche dernier, les Boliviens ont été appelés aux urnes pour des élections générales, près d'un an après, quasiment jour pour jour d'ailleurs, le putsch qui avait écarté du pouvoir l'ancien président Evo Morales, qui revendiquait sa victoire suite à un scrutin qui a été contesté. La vice-présidente de la Chambre des sénateurs, Jeanine Agnès, conservatrice, avait pris la suite, mais donc finalement, force est de constater que sa politique n'a pas convaincu. Et c'est donc Luis Arce du MAS, donc du mouvement vers le socialisme, qui remporte le scrutin avec plus de 50% des voix. Alors on va essayer de comprendre ce résultat et de voir à quoi il faut s'attendre maintenant pour le pays. L'année dernière, je le disais, la victoire d'Evo Morales, qui est resté 30 ans au pouvoir, avait été contestée. Cette fois-ci, Luis Arce recueille 55% des suffrages exprimés, contre 28% pour son adversaire de droite, Carlos Mesa, et 14% pour le candidat d'extrême droite, Luis Fernando Camacho. C'est une victoire, cette fois, incontestable et incontestée.
Je crois qu'elle l'est, puisque les autorités du gouvernement de facto ont immédiatement reconnu cette victoire avec 55%. En fait, dès le premier soir, Jeanine Agnès a reconnu, sur la base des sondages sortis des urnes, cette victoire très très large du MAS. Une simple précision, Evo Morales n'est pas resté 30 ans au pouvoir.
J'ai dit 13 ans.
À 13 ans,
ah, c'est le masque,
j'avais compris.
C'est le masque, je pense.
Et effectivement, en fait, Evo Morales a gagné sur le fil la dernière fois avec cette règle qui permet d'élire un président de la République avec plus de 40% des voix s'il arrive 10 points devant son adversaire arrivé second. Et ces résultats-là avaient été contestés à la fois dans la rue avec une opposition de droite extrêmement mobilisée, tout ce mouvement des petitas qui mobilisait les classes moyennes, avec des mutineries du côté de la police, avec une armée qui avait appelé en fait Evo Morales à partir, à quitter le pouvoir. Et disons qu'il y a quand même un élément qui avait ouvert la voie à cette prise du pouvoir par un gouvernement de facto, c'est le rapport préliminaire qu'avait remis l'Organisation des États américains faisant état de fraude. Et depuis, des études indépendantes ont établi que ce rapport préliminaire se basait sur des données manipulées. Et même le New York Times, qui a publié une partie de cette étude, a fait son mea culpa sur les accusations de fraude dont a été la cible de Morales.
Là, on a craint aussi, pardon de vous couper, on a craint aussi des manipulations. Il y a un moment où on a suspendu le système de compilation des résultats, on a suspendu aussi les sondages sortis des urnes qui étaient favorables effectivement aux socialistes. On a eu un moment, peur justement, qu'à nouveau on manipule les résultats.
Alors, il y a eu une situation, un climat d'extrême tension, un climat de violence aussi pendant cette campagne électorale. Il faut savoir que tout a été mis en œuvre dès son retour en Bolivie pour tenter d'entraver d'abord la candidature de Luis Arce. Cette candidature a fini par s'imposer et jusque dans les derniers jours avant le scrutin, des démarches avaient été entreprises pour ôter au mouvement vers le socialisme sa personnalité juridique. Donc, requête rejetée par la justice bolivienne. Mais il y a eu ce climat de violence entretenu par des milices d'extrême droite, avec des candidats du MAS, des candidats aux législatives, aux sénatoriales, qui étaient pris pour cible, qui étaient attaqués extrêmement violemment. Et Luis Arce lui-même qui a été molesté, par exemple, par des policiers en civil lors de ses déplacements. Enfin, et tout ça encouragé par les autorités de facto, notamment par le ministre de l'Intérieur, Arturo Murillo, qui s'en est pris aussi, par exemple, aux observateurs venus regarder les conditions dans lesquelles se déroulait ce scrutin.
Pour qu'on ait un peu une idée, justement, de ce climat de violence que vous évoquez, il faut introduire donc ces miliciens d'extrême droite qui s'appellent les Nervis, qui ont effectivement tabassé, insulté à l'envi. Il y a notamment, vous avez fait un portrait pour l'Humanité, d'une femme qui est maintenant sénatrice, qui a été élue, qui s'appelle Maria Patricia Arce Guzman, et son histoire a provoqué vraiment l'émoi et beaucoup de discussions en Bolivie. Vous nous racontez ce qui lui est arrivé à cette femme?
Alors Patricia Arce, elle est maire d'une localité près de Cochabamba qui s'appelle Vinto, et au moment du coup d'État, là il y a un déferlement de violence, les locaux du MAS sont incendiés, mis à sac, les domiciles aussi de certains dirigeants, dont la maison d'Evo Morales, d'ailleurs à Cochabamba. Les représentants, les militants, les sympathisants du MAS sont pris pour cible. Et elle a été séquestrée, frappée, battue, couverte de peinture rouge, traînée dans la boue. Et cette image-là avait énormément choqué. Et elle a été élue triomphalement sénatrice à l'issue de ces élections générales. Mais elle est devenue un peu le symbole de la violence qui s'est déchaînée contre des représentants du MAS. Et une violence qui avait aussi une dimension, il faut le dire, raciste, quoi. Et y a, je crois, dans le déchaînement de cette extrême droite, il y a eu une volonté de prendre la revanche sur ces descendants en fait des peuples originaires qui se sont imposés au pouvoir au travers d'une dynamique d'émancipation politique, de participation politique. Ça, c'est quelque chose qu'une certaine élite économique héritière en fait aussi des colons espagnols n'a jamais accepté. Il y a eu une espèce de libération de la parole raciste pendant cette année qui a énormément choqué les Boliviens et qui, je crois, a contribué à la dynamique très forte qui s'est construite autour du MAS à l'occasion de ce scrutin.
Alors comment on va justement gérer cette séquence-là avec cette immense violence qui a eu lieu, les Nervis, ces ministres d'extrême droite, le gouvernement de transition, on parlait de Jeanine Agnès, vous parliez de Murillo, le ministre de l'Intérieur. Est-ce que ces gens-là vont être poursuivis? Est-ce qu'on va jouer la carte de l'unité nationale et donc passer à autre chose?
Alors, des voix s'élèvent déjà pour demander que soient désarmés ces groupes violents qui agissent à Cochabamba, à Santa Cruz et puis ailleurs dans le pays, qu'ils puissent être aussi jugés pour leurs exactions. Et en effet, des voix s'élèvent pour demander que ne s'installe pas une forme d'impunité, mais que le gouvernement de facto, et donc Jeanine Agnès en tête, puisse rendre compte d'un certain nombre de violations graves des droits humains qui ont eu lieu pendant le coup d'État électoral de l'année dernière et puis ensuite, tout au long de cette année. Je pense en particulier aux massacres qui sont produits les 15 et 19 novembre à Sacaba, donc dans le tropico de Cochabamba, et à Sankata, là, plutôt du côté d'El Alto, du côté de La Paz.
Et Arce, le nouveau président est disposé justement à faire ce travail ?
Alors, il est dans une position compliquée parce qu'il hérite aussi d'une situation d'extrême polarisation. Donc, il tient un discours de réconciliation nationale et en même temps, il est aussi sous la pression de ses appels à ce que justice soit faite pour pouvoir retrouver le chemin de la paix, de la stabilité. Mais en tout cas, je crois que cette aspiration à revenir à une forme de paix civile et de stabilité, là aussi, elle a joué dans cette dynamique en faveur du MAS, parce que moi, j'ai rencontré même des électeurs de Carlos Mesa qui disaient que leur principale aspiration, c'était le retour à la paix, à la stabilité. Et c'est vrai que ces 14 ans de gestion du MAS ont été une période à la fois de prospérité économique, mais aussi de stabilité politique dans un pays qui était habitué à l'instabilité, aux coups d'État et à ce genre de choses. Donc ça a énormément joué en faveur du MAS, de la même manière que le bilan social du MAS a joué en sa faveur. Il y a eu une réduction de la pauvreté, de l'extrême pauvreté spectaculaire. Elle était de près de 40% lorsque Evo Morales est arrivé au pouvoir. Elle n'est plus aujourd'hui que de 15%. Il y a eu une amélioration du salaire minimum aussi assez spectaculaire. Et je crois que toutes ces avancées sociales dont ont bénéficié les populations les plus défavorisées, elles ont participer de cette dynamique politique dans un contexte où le gouvernement de facto a laissé à l'abandon les populations dans cette période de pandémie qui a été vécue de manière extrêmement difficile par ceux qui en fait tirent leur subsistance de leur travail au quotidien, qui vivent du commerce informel et qui avec le confinement se sont retrouvés dans des situations où même la faim est revenue en fait.
J'entends ce que vous dites sur le fait qu'il y a une partie, en tout cas, des électeurs de la droite conservatrice qui est en réalité une partie est relativement nuancée et salue le bilan social et économique du MAS. D'autant qu'en plus, en regard, on a un bilan pour le gouvernement de transition économique qui est pas bon, qui était déjà pas bon avant même l'émergence de la crise sanitaire. Il n'empêche qu'il y a aussi dans ce paysage-là une extrême droite. Je le disais, Camacho, il a fait 14%, mais quand on regarde la carte électorale, en réalité, il est arrivé en tête dans toute la partie est du pays. C'est-à-dire qu'on a là aujourd'hui un pays qui est divisé avec une gauche, en gros, les régions andines, où c'est le MAS qui est très, très, très largement majoritaire, la partie nord, la partie sud, où c'est la droite, mais toute la partie est, c'est l'extrême droite qui est arrivée en tête. Est-ce qu'on peut se retrouver avec un pays totalement divisé, avec des territoires qui, pourquoi pas, demain, se retrouveraient totalement hors de contrôle de l'État ?
Alors, c'est une polarisation qui existait déjà auparavant.
À ce point ?
C'est-à-dire qu'il me semble que cette élite économique de la région de Santa Cruz, qui est aussi la région où s'est développé l'agro-business, région aussi... voilà, où est installée cette élite économique, elle n'a jamais pardonné au MAS et à Evo Morales la nationalisation d'un certain nombre de ressources naturelles, hydrocarbures, gaz naturel en tête. Et donc, cette polarisation existait déjà. Mais je crois que ce qui est important dans le cap qui a été passé là, avec l'épreuve à la fois du coup d'État et puis de cette année de répression, le MAS aurait pu... éclaté en fait en mille morceaux, d'autant qu'il y avait des voix critiques à l'intérieur qui par exemple ont pu s'émouvoir de la personnalisation cultivée autour d'Evo Morales, des mouvements sociaux qui ont pu se sentir tenu à l'écart par une forme un peu peut-être d'ossification. Et ce que montre ce qui vient de se produire, c'est que le MAS ne tient pas à une personnalité, à la personnalité d'Evo Morales. C'est pas du tout un parti politique classique, c'est plutôt une confluence à la fois de mouvements sociaux, d'organisations paysannes, indigènes, ouvrières, une espèce comme ça de mécanique d'articulation avec des mouvements sociaux.
Mais ça, c'est quand ça se passe bien, pardon de vous couper, mais c'est quand ça se passe bien. Ça s'est pas toujours bien passé, précisément. Cette base du MAS que vous décrivez n'a pas toujours été parfaitement derrière Evo Morales, et même progressivement, en réalité, s'en sont détachés. Il y a un point qu'on rappelle souvent concernant la Bolivie, c'est ce fameux conflit du Tipnis avec cette réserve indigène au milieu de laquelle on voulait faire passer une route. Ça fait un conflit terrible, les indigènes refusant la route, et on n'était partagée. C'est-à-dire que d'un côté, il faut, pour Morales, défendre les droits des indigènes, mais de l'autre, il faut développer les territoires et donc faire passer cette route. Alors, le problème, c'est qu'il a envoyé les policiers, que ça a fait une... Il y a eu des morts, et ça a été terrible. Et à partir de ce moment-là, on a senti un vrai effritement justement de cette base-là, indigène, paysanne, ouvrière, etc., etc. Ça va être un vrai enjeu pour le nouveau président RC que de récupérer justement tous ces mouvements populaires qui se sont quand même sentis marginalisés progressivement.
Alors, il y a eu cette fracture effectivement du type Nice, il y a eu la fracture aussi du référendum de 2016, oui. Perdu par Evo Morales et qui lui fermait la porte à un quatrième mandat. Il s'est quand même représenté suite à une décision de la Cour constitutionnelle. Ça aussi, c'est une fracture importante et c'est une démarche qui a été critiquée au sein et autour du mouvement vers le socialisme.
Et notamment critiqué par Arce ?
Alors, je crois que la façon, lui, dont il a conduit cette campagne, c'est une façon aussi avec une certaine humilité, c'est-à-dire qu'il a reconnu toutes ces fractures qui ont pu à un moment donné s'installer. Mais ce qu'on a pu sentir pendant la campagne, et c'est là où sa victoire était prévisible, c'est qu'il y a eu une remobilisation assez impressionnante de tous ces secteurs populaires, paysans, ouvriers, indigènes. On le sentait déjà dans la dynamique de campagne, dans les meetings qu'il a pu tenir, et notamment dans la dernière ligne droite de la campagne. Il y a cette réarticulation qui s'est faite et je crois que voilà cette dynamique collective elle continue de fonctionner et je crois que cette année de gouvernement de facto elle a permis que s'exprime aussi l'idée que une majorité de la population bolivienne ne veut pas de retour en arrière ne veut pas de retour en arrière de 14 ans mais ne veut pas de retour en arrière à une situation d'exclusion des Boliviens, d'exclusion politique des Boliviens issus des peuples originaires et qui représentent 62% de la population. C'est une majorité politique, sociale, culturelle qui est en mouvement et qui s'inscrit qui ne soutient pas un homme ou un parti, mais qui s'inscrit dans un processus d'émancipation politique qui tient aussi, à mon avis, d'une forme de processus de décolonisation. Il faut le dire aussi comme ça.
Et le retour possible, probable, d'Evo Morales qui avait dû quitter le pays. Il y a déjà des dates de retour qui sont en train de circuler. Il devrait revenir courant novembre dans le pays. Ce retour d'Evo Morales ne risque pas de gêner Arce et le MAS. Parce que j'entends ce que vous dites sur l'idée que le MAS, c'est pas seulement Evo Morales. Mais enfin, faut quand même aussi avoir en tête que c'est une personnalité absolument incroyable. Enfin, je veux dire, il a une aura, il y a quelque chose de très fort chez lui et les Boliviens sont très attachés à cette personnalité-là. C'est un vrai héros pour beaucoup d'indigènes boliviens. Son retour ne risque pas d'entraver justement cette dynamique de renouveau qu'essaye d'imprimer Arce.
Je crois que c'est une personnalité effectivement qui reste extrêmement populaire auprès des Boliviens. Son retour est rendu possible par le fait que la justice bolivienne aussi a abandonné les poursuites qui avaient été engagées contre lui par le gouvernement de facto pour sédition et terrorisme. Donc ça va être un événement politique important.
Il aura un rôle politique ?
Je pense qu'ils sont aussi en train de réfléchir ensemble au rôle politique qu'ils pourraient tenir, tout en laissant à la fois Luis Arce et David Choquehuanca, qui est le nouveau vice-président bolivien, assumer pleinement leurs fonctions. Il aura sans doute un rôle d'arrière-plan et puis peut-être de réarticulation justement avec tous ces mouvements sociaux, tous ces mouvements indigènes. Ce qui est important, je crois, dans ce que je retiens de cette séquence politique-là, c'est Oscar Oliveira, un vieux compagnon d'Evo Morales, qui s'en est un peu éloigné, qui était à la tête de cette guerre de l'eau, qui avait contribué à porter le MAS au pouvoir avec la guerre du gaz. Il disait, on n'est plus aujourd'hui simplement face à des mouvements sociaux, on est en face de sociétés en mouvement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a pu ressentir extrêmement fortement, à la fois dans cet élan, cette mobilisation pour récupérer la démocratie et dans le verdict des urnes qui s'est exprimé en Bolivie.
Merci beaucoup, Rosa Moussaoui, d'être passée dans nos studios. C'était passionnant. Merci infiniment de nous avoir éclairé sur cette situation en Bolivie. On va suivre les choses, regarder justement ce que sera le poids politique de Morales dans les mois, dans les années à venir. Je rappelle que vous êtes grand reporter pour l'Humanité et qu'on peut retrouver l'ensemble de vos papiers sur le site de l'Humanité. Un grand merci à vous.
Merci à vous.
Ella se llama libertad, alma, pasión y una costumbre de un pueblo en buena vecindad. Es 24 de septiembre, amante soy de libertad, que su belleza nos deslumbre por toda la eternidad.
Allez, on tourne cette page bolivienne, direction la Turquie, Erdogan, Macron, la religion dans l'arène diplomatique.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Alors que les relations franco-turques étaient déjà très mauvaises, elles sont devenues exécrables ces derniers jours avec un président turc qui reproche désormais à son homologue de maltraiter les musulmans.
Que peut-on dire d'un chef d'État qui traite des millions de membres de communautés religieuses différentes dans son pays de cette manière ? Allez d'abord faire des examens de santé mentale. En France, dans la citadelle de la liberté et de la laïcité, projetée à l'extérieur des bâtiments des caricatures qui insultent notre prophète et la plus misérable des vulgarités. Cela ne s'appelle pas la liberté, mais simplement l'islamophobie.
Voilà, alors il y avait déjà les tensions en Méditerranée cet été, le conflit en Libye, le conflit dans le Haut-Karabakh, il y avait eu ces dernières années évidemment la question migratoire, voilà un nouveau sujet de tension entre les relations franco-turques, la question religieuse qui s'immisce maintenant dans ce différend diplomatique. Ahmet İnsel est avec nous ce matin, ainsi que Didier Billion, je vous remercie l'un et l'autre encore une fois d'être avec nous. On est également avec Marc Sémo, notre partenaire du Monde, comme chaque vendredi. Marc, ça fait des années qu'on évoque ces tensions extrêmement vives avec la Turquie, avec Erdogan en particulier, depuis sa dérive autoritaire, 2013-2016. Mais là, il y a quelque chose peut-être de nouveau, c'est qu'il y a la question religieuse qui vient dans tout cela. Erdogan reproche à Emmanuel Macron, je le disais, de s'en prendre aux musulmans. Il y a cette loi sur le séparatisme qui pose problème du côté d'Ankara. Il y a la locution qui a été faite à la Sorbonne après le meurtre de Samuel Paty, où on n'a pas beaucoup montré d'empathie à propos justement de ce meurtre. Et on sait combien cette question évidemment religieuse est potentiellement explosive, inflammable.
Elle l'est. Et c'est pour ça qu'il faut différencier deux choses. Il y a d'un côté les invectives. Tribun populiste au verbe haut, le Reis, comme l'appellent ses partisans, la manie volontiers contre ses homologues dès qu'il y a un différend. On se rappellera qu'il avait traité Angela Merkel de nazie en 2017, après que Berlin ait refusé d'autoriser un de ses meetings outre-Rhin. Et maintenant, effectivement, Emmanuel Macron est devenue la principale victime de ces insultes. Alors bien sûr, tu le rappelais tout à l'heure, les contentieux sont nombreux, la Syrie, la Libye, le Haut-Karabakh, la Méditerranée orientale. Dans toutes ces affaires, le président français s'est mis en première ligne de ses partenaires européens, qui sont beaucoup plus hésitants, beaucoup plus mous, pour réaffirmer à raison un certain nombre de réalités et de principes face à Ankara. En même temps, il est resté assez seul. On l'avait vu après le quasi-incident naval franco-turc au large de la Libye en juillet. Seuls 8 des partenaires de l'OTAN ont publiquement soutenu Paris. Les 22 autres s'y sont refusés. Alors, ça en fait d'autant plus facilement une cible pour un leader turc qui flatte le nationalisme de son opinion et voudrait affirmer un espèce de leadership sur un monde sunnite divisé entre d'un côté l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats, et de l'autre, les frères musulmans, dont les deux pays symboles sont la Turquie et le Qatar. Mais au-delà de tout ça, tu le disais au début, la France est un symbole. Sur les décombres de l'Empire ottoman, Mustafa Kemal avait fondé une république inspirée du modèle jacobin, qui revendiquait sa laïcité, même si celle-ci est bien différente de celle de la France, car il ne s'agit pas de neutralité, mais d'un contrôle de l'État sur la religion. Néanmoins, le mot est là, c'est un symbole. Le turc est une des rares langues où il y a le mot laïque, laïcli. Et alors qu'Erdogan se détourne de l'Europe et de l'Occident, revendiquant de clore une parenthèse de 2 siècles, il ne peut que se déchaîner contre ce qu'incarne le président français.
Voilà, donc je pense que là, le décor est bien planté, il y a beaucoup de points sur lesquels on va revenir. Ahmet Insel, Didier Billion, je vais commencer avec vous, Ahmet Insel, et peut-être avec une question extrêmement délicate, mais je vais vous la poser quand même, parce qu'on a été tristement un peu rattrapé par une actualité, même si évidemment il ne faut pas corréler les choses, mais hier il y a quand même eu un attentat du côté de Nice, avec 3 morts. Il y a une question évidemment qui se pose, c'est que dans quelle mesure est-ce que Erdogan et le langage qu'il utilise, ses invectives, ses critiques à l'égard d'Emmanuel Macron quant à sa manière de gérer la question musulmane, il le traite carrément d'islamophobe. Est-ce que tout ce que déploie Erdogan là n'a pas aussi un peu participé à tout cela? C'est-à-dire que évidemment, il n'y a pas de corrélation directe. On n'est pas complètement idiot. Il n'empêche que c'est un climat général auquel a participé Erdogan. Jusqu'où est-ce que vous corrélez de vous?
Oui, il a participé. Il a même, à certains égards, il a été un peu l'organisateur de cette campagne anti-Macron dans les réseaux qu'il dispose en Algérie, au Liban, en Jordanie, les réseaux de frères musulmans particulièrement. Mmh. Et il a été un peu chef de file. Mais d'ailleurs, je crois que Tayyip Erdogan veut être... C'est un combat pour devenir un peu le chef de file des musulmans dans cette bataille contre l'Occident chrétien qui méprise l'islam, etc. Et il y a une concurrence même, je dirais, entre Tayyip Erdogan et, par exemple, l'Égypte. La mosquée El-Aqsa, par exemple, qui est l'autorité morale musulmane, a été un peu plus réservée dans son discours. Tayyip Erdogan a été beaucoup plus agressif de ce point de vue-là. Et comme a dit en plus Marc Semo tout à l'heure, ça lui permet à la fois ce positionnement en versant de l'huile sur le feu, si vous voulez. On peut dire comme ça. Ça lui permet à la fois de se positionner comme chef de file du monde musulman dans cette situation. Et il n'a pas beaucoup d'autres histoires à raconter dans le pays, et en même temps, ça lui permet justement de se montrer comme chef de file de cette vengeance historique à prendre sur les occidentalistes qui ont fait perdre l'âme originaire des Turcs avec la modernisation.
Et alors, comment
il n'y a pas d'autre histoire à raconter.
Et alors, Didier Billion, comment justement doit se positionner désormais face à cette posture que vient de décrire Ahmet Insel d'Erdogan, comment Emmanuel Macron doit désormais se positionner? Parce que il y a les relations avec la Turquie, mais plus largement, on voit bien que derrière ça, il y a une dégradation au fond de l'image de la France et l'image d'Emmanuel Macron dans le monde musulman de façon générale. Il y a eu des manifestations dans beaucoup de pays. En Turquie, évidemment, en Irak, en Arabie Saoudite, Égypte, Tunisie, Pakistan, Bangladesh, à Gaza, au Mali, on en parlait hier à ce micro. Est-ce que vous pensez que là, il faut désormais, Didier Billion, jouer la carte de l'apaisement ou au contraire, rester ferme sur les principes de liberté et de laïcité que sont les nôtres, Didier Billion?
Non, je pense que nous aurions tout intérêt à calmer le jeu tout en restant évidemment très intransigeants parce que les invectives qui ont été prononcées par Erdogan à l'encontre du président français, quoi qu'on puisse penser de M. Macron, ne sont pas acceptables. Il y a une limite qui a été franchie. Et évidemment, comme cela a été rappelé précédemment, il y a tout l'aspect populiste de M. Erdogan qui ressort et qui instrumentalise toutes les situations pour des intérêts de à la fois de politique intérieure et effectivement pour se disposer à l'égard du monde musulman comme un hypothétique leader. Mais de ce point de vue, ce n'est pas tout à fait la première fois que M. Erdogan procède ainsi. On se souvient, sans remonter trop dans l'histoire, qu'il y a 10 ans, presque exactement 10 ans, au moment de ce qu'on a appelé les printemps arabes, M. Erdogan avait fait un choix politique, voire stratégique, de rapprochement, de partenariat, voire d'alliance avec la mouvance des frères musulmans. Ce fut un échec total, puisque partout, ou presque, à l'exception de la Tunisie, les frères musulmans soit ont été débordés par plus radicaux qu'eux, c'est le cas de la Syrie, soit ont été victimes de coups d'État et se sont retrouvés en prison, c'est le cas de l'Égypte. Donc cette erreur stratégique a affaibli la politique extérieure est la ligne que voulait promouvoir M. Erdogan. Mmh. Et là, il repart au combat, si vous me passez l'expression, en enfourchant de nouveau des thèmes identitaires qui sont infiniment dangereux.
Mais est-ce qu'il le fait seulement, pardon Didier Billion, est-ce qu'il le fait seulement Didier Billion sur le plan de la rhétorique, ou est-ce que l'assaut peut aussi revenir sur le plan politique? C'est-à-dire que malgré les échecs que vous avez décrits,
oui.
Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que Erdogan cherche à soutenir encore de façon plus prononcée des forces politiques islamistes à l'extérieur de ses frontières, malgré les échecs?
Oui, il va probablement le chercher, mais je rappelle toujours une chose, c'est que l'islam politique dans les mondes arabes, et notamment l'histoire des frères musulmans, n'est pas du tout la même que celle de l'islam politique en Turquie. Donc, d'une part. Et puis d'autre part, dans les mondes arabes, l'Empire ottoman n'a pas laissé que de bons souvenirs, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est pourquoi je pense que ces tentatives de Erdogan, qui vont se poursuivre indéniablement, seront des échecs. Il peut s'appuyer sur des réseaux d'influence qu'il possède. Pour autant, et vous avez bien fait de le rappeler, il y a eu des manifestations, pour l'instant, très minoritaires. Je tiens quand même à le souligner.
Très minoritaire, mais dans beaucoup de pays. Très minoritaire, mais dans beaucoup de pays, Didier Billion.
Oui, absolument. Ouais. Absolument. Mmh. En Jordanie, par exemple, c'est le ministre des Affaires étrangères lui-même qui a appelé au boycott, qui a critiqué la France. Au Maroc, c'est le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Donc, c'est souvent, et la plupart du temps, le fait de groupes minoritaires, certes, mais pas uniquement. Il faut quand même que nous nous interrogions, pour revenir à votre question, sur notre politique. Le terme d'islamophobie, pour ma part, je l'assume totalement. Il y a un mauvais vent qui souffle actuellement sur la France et qui, malheureusement, est exploité par Erdogan et quelques autres populistes. Donc, pour revenir, et j'en termine là pour le moment, pour en revenir à votre question, je pense que M. Macron aurait tout intérêt à calmer le jeu et aussi à s'interroger sur le fait que sa politique génère, à travers de nombreux pays, mais pas uniquement en Turquie, des réactions parfois violentes, parfois d'appel au boycott. Tout cela n'est pas très bon. Et ce que je constate, moi, c'est que dans toute cette région, du Moyen-Orient au sens le plus large du terme, l'image de la France est en train de se dégrader.
Et il doit l'entendre. Marc Semo et Amat Insel. Marc Semo.
Pour rebondir sur ce que dit Denis Billion, il a raison. Pour le moment, c'est une rhétorique qui tourne à vide. Et notamment en Turquie. En Turquie, les manifestations ont été absolument dérisoires. Il y en a eu au Bangladesh, il y en a eu dans d'autres pays. En Turquie, c'était dérisoire. Et ce que je voudrais simplement souligner, c'est qu'il y a cette posture califale. Effectivement, Erdogan joue sur cette espèce de grand absent qui a été le calife, sur le commandeur des croyants, qui était ottoman pendant 5 siècles. Le dernier a été déposé par Mustafa Kemal Atatürk, et depuis, il y a ce vide. Et donc, d'une certaine façon, il se pose en leader comme ça du monde musulman. Mais ça ne marche pas, parce que justement, Didier Billon le rappelait, l'Empire ottoman a laissé plutôt de mauvais souvenirs. Et ce qui est frappant, c'est à la fois l'isolement aujourd'hui diplomatique de Recep Tayyip Erdogan sur toutes ces questions. Et deuxièmement, ce néo-ottomanisme, à l'époque où il y avait Ahmet Davutoğlu, qui était son ministre des Affaires étrangères, qui était un professeur, qui l'avait théorisé, notamment au moment des printemps arabes. Ça marchait parce qu'il y avait un immense soft power turc. C'est-à-dire, la Turquie, c'était l'idée qu'on pouvait faire une démocratie dans l'islam avec de l'économie qui tourne. De fait, ça n'a pas vraiment marché. Et surtout aujourd'hui, le soft power turc est remplacé par un hard power à travers des aventures militaires, des mercenaires, etc., qui ont des effets de retour extrêmement forts. Mmh. Et donc qui isolent toujours un peu plus Ankara.
Alors, justement, sur l'isolement, Amat Insel, je voudrais vous entendre. Est-ce que vous allez dans le sens de Marc Semo, et est-ce que vous diriez effectivement qu'il est aussi isolé que ce que Marc Semo a l'air de le dire? Et puis, en miroir, on pourrait regarder aussi la question de l'isolement diplomatique d'Emmanuel Macron. Parce que Marc Semo rappelait à juste titre qu'il y avait eu des réactions, il y en a eu. Je pense à Marc Rutte, qui a effectivement parlé de propos inacceptables. Angela Merkel, qui a dénoncé des déclarations diffamatoires. Giuseppe Conte, président du Conseil, qui lui aussi a dit un certain nombre de choses. Mais en même temps, on peut considérer que c'est assez peu au regard de la charge et peut-être de la nécessité dans ce genre de situation d'être unis, de parler de façon forte et claire. Pourquoi pas, on l'évoque, de sortir des sanctions. Enfin, voilà, sur cet isolement côté et de l'autre, à mettre.
D'un côté et de l'autre, oui. Du côté de la Turquie, n'oublions pas, la Turquie est un pays membre de l'OTAN. hein, juste pour le moment. Et je dis pour le moment. La Turquie est un pays membre de l'OTAN, mais même au sein de l'OTAN, il commence à être très isolé. Il commence à être un peu le brebis galeux de l'OTAN. Ce qui était l'enjeu principal du soft power de la Turquie, c'était d'être le pays le plus entré dans les institutions des pays du Nord parmi les pays du Sud et parmi les pays musulmans. L'OTAN, l'OCDE, le Conseil de l'Europe, éventuellement membre de l'Union européenne dans quelques années, comme on espérait dans les années 2000. C'était ça le soft power de la Turquie. Et Davutoğlu, il le disait ouvertement. Nous porterons le Sud, ou les musulmans, dans le Nord et nous le représenterons. Et ça, c'est totalement échoué. Et deuxièmement, la Turquie est en... Je dirais, est en situation de comportement hyperactif en matière de politique internationale. C'est vraiment de l'hyperactivité, mais à court terme. Il s'avance là où il y a un vide de pouvoir. En Libye, par exemple, c'est très net. Il y a eu un vide, il a sauté dessus. Il est en train de jouer la carte d'Azerbaïdjan, mais en même temps, il est avec Poutine ou il est contre Poutine. Et en même temps, hein, c'est deux choses qui sont... Il engueule les États-Unis, il engueule l'Union européenne. Et là-dessus, je reviendrai sur la question de Macron. Donc, du côté de la Turquie, qu'est-ce qui est comme allié de la Turquie ouvertement? Azerbaïdjan, Qatar, Pakistan. Et puis, on s'arrête là, hein, ouvertement. Les autres, il y a un peu de sympathie, etc. Mais ça ne va pas plus loin. Aucun pays... Depuis 1982, où la Turquie a fait déclarer l'indépendance du Chypre du Nord, aucun pays, y compris Azerbaïdjan, n'a reconnu l'indépendance du Chypre du Nord. C'est pour montrer un peu les limites de cette solidarité. Deuxièmement, du côté de Macron, je ne comprends pas non plus la stratégie de Tayyip Erdogan. Si on est rationnel, Tayyip Erdogan a intérêt à écarter entre Merkel et Macron, la position, vous savez qu'il y a un différent entre Angela Merkel et Emmanuel Macron sur la position à tenir vis-à-vis de la Turquie. Merkel pousse beaucoup pour des positions de négociation, Macron pour des positions de rapport de force. Et jusque-là, c'est Merkel qui a empêché, principalement, pas uniquement, mais c'est Merkel qui a empêché le vote des sanctions. Alors, je regarde du côté de Tayyip Erdogan, il a intérêt à écarter encore plus ses positions. Or, il met dans le même sac, il injurie Macron, mais il injurie aussi Merkel en traitant de nazis, fascistes, etc. Là, ce n'est plus dans un positionnement rationnel, c'est vraiment dans une position de quelqu'un qui est dans une sorte de panique-attaque, qui est dans une position de hyperactif, etc. Ouais. Et là, nous perdons du côté de la Turquie, évidemment. La Turquie est devenue un allié suspect pour tout le monde. Je ne dis pas simplement pour l'OTAN, pour l'Union européenne. Il est un allié suspect pour la Russie. C'est un allié potentiel suspect pour les pays arabes musulmans de la région. Et c'est un allié ennemi vis-à-vis de ses voisins comme la Syrie, la Grèce et éventuellement même pour l'Iran.
Didier Billon, et ensuite je vous donne la parole, Maximo. Mais Didier Billon, sur ce que disait Ahmet Insel à propos du rapport à l'Union européenne et de ce projet qu'il y a eu, c'est vrai, parce que maintenant on a tendance à l'oublier tellement c'est en réalité plus d'actualité, d'intégration de la Turquie à l'Union européenne. Est-ce qu'au fond, toutes ces tensions qu'on voit aujourd'hui, ce ressentiment d'Erdogan à l'égard de Macron, qu'on a l'impression parfois d'être quasiment personnel, tant il est fort, est-ce qu'il n'est pas aussi à replacer dans cette dimension-là? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas aussi toute la rancœur de la Turquie vis-à-vis d'une Union européenne qui finalement la rejette? Quand on replace un peu les choses, faut quand même se souvenir qu'on a eu un certain nombre de présidents ici qui ont rejeté l'idée d'une intégration de la Turquie à l'Union européenne. Pensons à Nicolas Sarkozy. Pensons même à Valéry Giscard d'Estaing qui, au moment même où c'était très d'actualité parce qu'on ouvrait les discussions, avait dit « Attention, une Turquie dans l'Europe, ce serait la fin de l'Union européenne », avait-il dit. C'était quand même très très fort. Est-ce qu'au fond, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est pas le retour de bâton, cette rancœur-là qu'on a accumulée pendant des années, Didier Billon?
Ah oui, vous avez parfaitement raison. Je pense que les dirigeants européens, et notamment à l'époque de Nicolas Sarkozy, en duo d'ailleurs avec Madame Merkel, ont une part de responsabilité écrasante. C'est-à-dire qu'en fermant, en réalité, de facto, la possibilité, un jour, peut-être, à la Turquie, de rentrer dans le club européen, eh bien, nous ont privé, nous, Européens, de tout moyen de faire pression, d'exercer des conditionnalités, comme ça avait été le cas dans les premières années d'ouverture des négociations. Et de ce point de vue-là, c'est une erreur stratégique majeure de la part de l'Union européenne. Alors évidemment, on ne peut pas faire reporter toute la responsabilité de la dégradation de la situation aux Européens. Monsieur Erdogan en a une large part lui aussi. Mais on le dit souvent, c'est un animal politique. Donc il sait saisir les failles qui existent. En dépit des erreurs qu'il commet ces derniers jours ou dernières semaines, comme l'a fort bien rappelé Ahmed, parce que, en bon politique, il devrait essayer d'élargir les coins, les divergences, les différends qui existent, par exemple, entre la France et l'Allemagne. En injuriant Madame Merkel, il remet Monsieur Macron et Madame Merkel dans le même sac et, dans leur condamnation de la Turquie. Donc lui-même fait des erreurs. Un des grands défauts de Monsieur Erdogan, c'est qu'il est incapable d'élaborer une stratégie sur le moyen ou le long terme. C'est un homme qui réagit, qui surréagit aux événements, des fois avec quelques succès, avec quelques bonheurs. Quand on fait le bilan de son intervention en Libye, je veux dire, il a plutôt bien joué du point de vue des objectifs qu'il s'était fixés. Pour autant, rien n'est définitivement réglé en Libye. Mais il est incapable de se projeter sur une dizaine ou une quinzaine d'années. Et c'est là un de ses points faibles. Par ailleurs, s'il est vrai qu'il n'a pas d'alliés au sens le plus littéral du terme, au sens le plus classique du terme, n'oublions quand même pas que quand il y a eu des débats, vous l'avez rappelé, au sein de l'Union européenne sur d'hypothétiques sanctions, eh bien ça a été repoussé par une majorité de pays européens. Quant au sein de l'OTAN, il y a eu une commission d'enquête mise en place pour se pencher sur l'incident naval qui a eu lieu en mer Méditerranée au large des côtes libyennes au mois de juin dernier. Eh bien là, à nouveau, une majorité de pays de l'OTAN n'ont pas voulu hausser le ton. Donc à la fois, il n'a pas d'alliés ou très peu d'alliés au sens strict du terme, mais pour autant, beaucoup d'États, et dans l'Union européenne et dans l'OTAN, pour des raisons différentes, mais souvent complémentaires, se refusent à clasher, si vous me passez l'expression, avec la Turquie, parce que la Turquie reste un élément perçu comme indispensable, en dépit de la politique de Erdogan, un élément indispensable pour la stabilité régionale. C'est un singulier paradoxe, mais c'est encore perçu comme cela.
Et puis, je disais, je vous donne la parole, Marc Sémo, je rappelais ce rejet des présidents français. Il y en a eu d'autres qui étaient tout à fait favorables, et je pense notamment à Jacques Chirac, qui non seulement avait dit que la Turquie avait vocation à intégrer l'Union européenne, mais pire, il avait dit que si on ne le faisait pas, ça provoquerait des instabilités politiques à la marge de l'Europe qu'on regretterait. On voit que voilà, lui avait eu cette vision-là. Marc Sémo, et puis ensuite, on va faire une petite pause en dessin. Marc.
Alors justement, est-ce que ce n'est pas là-dessus qu'Emmanuel Macron, finalement, en partie, fait fausse route, parce que quand il compare Erdogan à Xi Jinping, à Vladimir Poutine, c'est finalement pain béni pour un Erdogan qui se voit mis au niveau des plus grands chefs d'État et étrangers des nouvelles grandes puissances revanchistes. Alors, une des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron est un peu à porte-à-faux en Europe et dans l'OTAN d'ailleurs, c'est que Emmanuel Macron dit à raison. Pourquoi avons-nous perdu la Russie? Pourquoi avons-nous perdu la relation avec la Russie? Et nous devons nous interroger. Cette même question, il ne se la pose pas sur la Turquie, alors que beaucoup d'Européens se la posent, et alors que, d'une certaine façon, elle est encore plus importante, parce que la Turquie est un pays membre de l'OTAN, la Turquie était candidat à l'Union européenne depuis 2005, donc cette interrogation de dire pourquoi on a perdu la Turquie, d'une certaine façon, si le président français l'a posé ouvertement, ça aiderait, je pense, un peu plus à une reprise du dialogue.
Sauf qu'évidemment, compte tenu du contexte, c'est difficile de la poser comme telle maintenant. Je vais vous faire réagir à Matinsel, évidemment, d'abord, comme chaque vendredi, on a un moment, on choisit un dessin en fonction de notre sujet du jour, on a un partenariat avec l'association Cartooning for Peace, c'est donc la bulle cartooning du vendredi.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les hommes, mon vieux.
Assis.
Et c'est donc aujourd'hui Margot Loridon qui nous présente ce dessin. Bonjour Margot.
Bonjour Florian, bonjour à tous.
Et donc un dessin qui souligne un certain deux poids deux mesures quand il s'agit de boycotter les produits français.
Oui, c'est une vignette du dessinateur français J.O. publiée mardi dans Marianne. On y voit un rutilant avion de chasse estampillé Rafale, fleuron du constructeur français Dassault, et deux protagonistes en plein conciliabule. Le premier, portant le camis et coiffé du schéma radamier rouge et blanc des nobles saoudiens, se tient dans sa cabine, prêt à décoller. Le second, vêtu à l'occidental et resté à l'extérieur de l'appareil, semble suspendu à ses lèvres. L'émir lève son index, comme pour une dernière consigne avant le départ. « Je crois qu'on va annuler nos commandes de vaches qui rient. » De fait, rappelons que si Recep Tayyip Erdogan s'est empressé de reprendre à son compte les appels au boycott des produits français lancés la semaine dernière dans plusieurs pays arabo-musulmans, il n'en est pas à l'origine. L'initiative qui s'est d'abord répandue sur les réseaux sociaux a été particulièrement relayée dans des pays du Golfe, pourtant plus réputés pour leurs contrats d'armement que pour leur consommation de camembert. Titre du dessin, réelle économie versus réelle religion. Toute cette histoire de boycott ne serait donc que de la réelle politique ? Au Qatar, plusieurs enseignes s'enorgueillissent depuis une semaine d'avoir renoncé au Babybel et Bonne Maman. La réplique du mythique restaurant de la gare de Lyon, Le Train Bleu, ouverte à Doha, servira désormais de la cuisine française sans produits français, et l'Université nationale a reporté sa semaine culturelle française s'inédier. Pas un mot, en revanche, sur les 36 Rafales commandées en 2015 par l'Émirat, deuxième client de notre industrie d'armement, juste devant l'Arabie Saoudite. Et au milieu des produits cosmétiques et alimentaires renvoyés par le Qatar à l'expéditeur, nulle trace des premiers avions de chasse livrés l'année dernière par la France. Face à cet arbitrage sans appel, on serait tenté d'avancer que boycotter le fromage, ça ne mange pas de pain. Un intérêt bien compris de part et d'autre, alors que le Moyen-Orient ne représente que 2,7% des exportations alimentaires de l'Hexagone, il pèse encore pour près de la moitié dans ses ventes d'armes. Sur la période 2010-2019, à l'exception de l'Inde, les 5 principaux clients de la France ont ainsi été des pays du monde arabo-musulman. Rien que l'année dernière, les Émirats Arabes Unis ont à eux seuls passé 1,5 milliard d'euros de commandes. De quoi expliquer que les dirigeants français ne fassent pas tout un fromage du boycott de la vache qui rit. Pour autant, il serait faux de dire que rien ne change. Ces derniers mois, le ministère français de la Défense a abondamment communiqué sur sa volonté de réorienter nos exportations militaires vers l'Europe. Paris aurait-il senti le vent tourner ? En 2019, 45% de nos contrats d'armement se sont dirigés vers nos voisins continentaux. Et surprise, qui en Europe nous achète aujourd'hui des rafales ? Athènes, a-t-on appris le 12 septembre dernier, en plein regain de tension entre la Grèce et la Turquie d'Erdogan.
Merci beaucoup Margot Leridon pour ce festival de jeux de mots autour du fromage qu'on a bien noté. Hein. On publie évidemment le dessin sur le fil Twitter de Culture Monde, sur la page de Culture Monde. Vous voulez réagir à Matt Instel et Didier Billion ? Normalement, vous avez dû recevoir aussi hein, Didier Billion le dessin. À Matt Instel ?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, Tayyip Erdogan, comme vous avez souligné, a repris cette idée de boycott des produits français. Mais de toute façon, il n'avait pas besoin d'appeler parce que c'est Tayyip Erdogan. La population fait naturellement boycott parce que la livre turque, grâce à la politique de Tayyip Erdogan, la politique économique, la livre turque a perdu 40% de sa valeur vis-à-vis de l'euro. Donc du coup, acheter des vaches qui rient aujourd'hui...
Ça coûte trop cher.
Ça coûte déjà trop cher. Personne n'achètera. En revanche... Ce que vous avez souligné, je crois que c'est à réfléchir vis-à-vis de l'Union européenne en termes de sanctions. La Turquie et Tayyip Erdogan est très très très fière de son armement qu'il exporte avec les engins sans
les drones,
les drones armés, etc. Mais la plupart des pièces stratégiques les plus importantes de l'armement turc, aussi bien au niveau des chars d'assaut que les drones ou les sous-marins, vient des pays européens. Et le Canada vient de mettre un embargo pour la livraison des caméras et des pièces électroniques pour les drones qui sont en Turquie. Donc du coup, là aussi, il faut réfléchir à cet aspect des choses, comme pour les rafales, pour les pays.
Oui, et puis on pourrait ajouter, puis Didier Billion, je vous fais réagir, mais on pourrait ajouter aussi d'autres questions qui sont liées, par exemple, à la question des imams turcs qui sont présents aujourd'hui en France, à la question des écoles turques aussi, dont on sait que...
Les écoles hors contrat.
ELCO, les écoles hors contrat, c'est à peu près 15 000 élèves aujourd'hui qui sont... Hier, parce que désormais, elles sont terminées, hein. Elles sont fermées, ces écoles-là.
Certaines,
en tout cas. Enfin, la grande majorité.
Il y a 150 imams sur 300. Il y a 300 imams financés par les pays étrangers en France. 150 viennent de la Turquie.
En tout cas, ça fait un levier du côté de la France, du côté d'Emmanuel Macron, très important que j'imagine Erdogan doit craindre.
Un des conflits entre la France et la Turquie, avant même tous ces, ça dure depuis 2 ou 3 ans. C'est pas nouveau.
C'est même peut-être le principal en réalité derrière la vache-quirie. Didier Billion.
Ben oui, je suis tout à fait d'accord. C'est que si on vient sur la France et la relation bilatérale, il y a là un sujet de contentieux qui gêne beaucoup Monsieur Erdogan. Là, c'est pas une question de vente ou pas de vaches qui rient, c'est la question des imams et des instituteurs qui sont envoyés pour enseigner la langue turque, sans que la France n'ait aucun contrôle sur ni les imams ni les instituteurs en question. Donc, sur cet aspect très précis, Monsieur Macron a plutôt raison. Le problème, c'est que c'est noyé dans une sorte de vocabulaire où on remet en cause l'islam, les influences étrangères, etc. Je pense qu'il ferait là aussi mieux de mesure garder, de rester de sang-froid pour poser les questions parce qu'elles méritent d'être posées, mais clairement, les jeux d'influence que veut développer Monsieur Erdogan en France, il ne faut pas les exagérer. Il faut toujours remettre les choses à leur juste proportion. Mais ça, ça l'ennuie beaucoup parce que il compte instrumentaliser une partie de la communauté turque qui vit en France pour ses propres besoins. Il a déjà fait des déclarations. Mmh. Il avait participé il y a quelques années à un meeting, non pas en France, mais en Allemagne, devant des ressortissants turco-allemands ou d'origine turque, et il avait dit surtout « vous ne vous assimilez pas ». Bah, le programme est ainsi donné. Donc là, on est dans une logique dangereuse, parce qu'il agite les ferments identitaires, alors soit religieux, soit de type ethnique. On a constaté il y a quelques jours une manifestation instigée par les loups gris, c'est-à-dire des commandos d'extrême droite turque, qui a été manifestée à Dessin, une ville du sud-est de la France, qui est notoirement peuplée par les Arméniens. Mmh. Donc on est quand même là dans une logique infiniment dangereuse. Bien évidemment, la grande masse des Turcs ou des Franco-Turcs qui sont sur le sol national ne réagissent pas en ce sens, mais on voit bien là un des aspects du projet de M. Erdogan, et là nous sommes sur une pente dangereuse, et sur ces aspects, là il faut montrer la plus ferme résolution.
Ahmet İnsel, vous rappeliez tout à l'heure qu'au fond, le boycott sur la vache qui rit, il se faisait naturellement parce que l'économie turque est très mal en point. Ouais. Jusqu'où faut-il mettre justement en relation cette virulence d'Emmanuel Macron à l'égard d'Erdogan à l'égard d'Emmanuel Macron, mais aussi son activisme militaire tout azimut à cet affaiblissement peut-être de l'économie et donc à une forme d'affaiblissement de sa popularité. Quand on regarde les sondages, on voit qu'effectivement ça baisse énormément. Il y avait eu un sondage récemment d'un institut de sondage que j'ai oublié, mais qui mettait İmamoğlu, qui est le maire d'Istanbul et son principal opposant, devant Erdogan dans l'hypothèse d'une élection qui se...
Les deux maires d'ailleurs, mais
c'est la première fois, ça n'arrive jamais.
Ouais. Il y a une chute de popularité. Il y a une chute de popularité de son parti d'abord, avant même Erdogan. D'abord, son parti est en train de chuter. Erdogan a besoin aujourd'hui l'apport des voix d'extrême droite nationaliste pour passer. Il ne peut pas passer par ses propres voix. D'ailleurs, c'est pourquoi il a créé, il y a 3 ans, une alliance islamo-nationaliste, ouvertement, c'est l'alliance du peuple, il a une alliance islamo-nationaliste. Erdogan n'a plus d'histoire à raconter à son peuple aujourd'hui. Alors qu'il y a 10 ans, par exemple, Erdogan disait, dans 10 ans, en 2023, c'est 100e anniversaire de la République en Turquie, 2023. Dans 10 ans, en 2023, nous aurons $25,000 du PIB par habitant. C'était son objectif. Hein. Aujourd'hui, la Turquie a abaissé à un niveau de 2007. Jusqu'en 2013, le PIB par habitant a atteint $12,000. Aujourd'hui, le PIB par habitant est retombé à $8,000, à son niveau de 2007. Il n'a pas d'histoire économique à raconter, et des balivernes, sinon. Et il n'a pas d'histoire d'Union européenne, alors que dans les années 2000, c'était ça, la mobilisation. Il n'a pas... Donc, du coup, il lui reste comme histoire de mobilisation la religion, l'identité religieuse et le nationalisme turco-religieux. Mélange des deux, le nationalisme turco-religieux, et qui, plus il perd, plus il devient répressif à l'intérieur, pour empêcher le mécontentement s'exprimer. Il devient de plus en plus répressif. Vous pouvez pas imaginer le nombre d'arrestations par jour en Turquie, des députés, des militants de HTP, des avocats, des journalistes. Mais c'est infini. C'est infini. Ça augmente du jour en jour. Et de l'autre côté, une utilisation massive de la direction des affaires religieuses pour pouvoir faire un encadrement idéologique, culturel, pour pouvoir tenir une histoire de grandeur.
C'est
autour...
la seule chose qui lui reste.
Et il lui reste ça.
Maximum. Alors,
juste pour compléter, il y aura en 2023 la présidentielle, qui est à 2 tours.
Oui.
Et ça a été peut-être une des grandes erreurs d'Erdogan, parce que si on était resté dans un système parlementaire, l'AKP avec quelques alliés, plus ou moins serait resté le parti de majorité relative. Là, bah, c'est une présidentielle à deux tours. Donc, on peut imaginer au deuxième tour, si l'opposition trouve un candidat un peu fort, que tout le monde décide de voter contre Erdogan. Et de fait, ce candidat existe. Plus que le maire d'Istanbul, Imamoglu, qui est un peu effacé, pour être gentil, il y a surtout le maire d'Ankara, qui est à la fois de la gauche, du GAP, mais qui est aussi un nationaliste, et qui peut donc justement autour de lui cristalliser ça. Et donc, le danger pour Erdogan est réel et immense. Et sur ces questions nationales, bah, l'opposition est prise à contre-pied. Parce que sur la mer Égée et les droits du plateau continental et des recherches pétrolières en mer Égée, et bah, l'opposition, elle soutient les positions d'Erdogan. Et sur un certain nombre, y compris sur l'Azerbaïdjan, et les droits de l'Azerbaïdjan à récupérer une partie de son territoire, c'est pareil. Donc là-dessus, non seulement il essaye de... mais en plus, il enfonce un coin dans l'opposition.
Didier Billon, on arrive presque au terme de cette émission. Je vous en prie, réaction sur cette fragilisation politique d'Erdogan.
Bah, fragilisation incontestablement. Néanmoins, moi je me souviens toujours qu'au municipal, il y a un an, un peu plus d'un an, un an et demi maintenant, Erdogan a perdu Ankara et Istanbul. Évidemment, c'est plus que symbolique et c'est fondamentalement important. Sauf que son parti, au niveau national, représentait encore 44% des suffrages exprimés. Alors j'ai bien lu, c'est les derniers sondages qui donnent beaucoup moins, mais on est confronté en Turquie à un problème que nous pouvons éventuellement connaître sous d'autres cieux, c'est-à-dire qu'une perte de popularité du chef d'État, s'il n'a pas une opposition unie capable de s'organiser en face, risque bien de repasser. Nous n'en sommes pas là. Les prochaines présidentielles en Turquie, c'est dans 3 ans. Donc, de l'eau va passer sous les ponts du Bosphore. Mais pour autant, si l'opposition n'est pas capable de s'organiser, de jouer un programme unitaire, eh bien, je ne dis pas que M. Erdogan pourra repasser. Je n'en sais strictement rien. Mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ouais. Il a encore des ressources. Elles sont en train de s'épuiser pour les raisons qui ont été évoquées par Marc et Ahmed, notamment les enjeux économiques. Donc, sa base électorale est en train de se réduire. Mais les deux partis qui se sont constitués issus de l'AKP de M. Babacan et de M. Davutoğlu, pour l'instant, n'ont pas réussi à percer. Alors, ces partis, notamment celui de M. Babacan, ancien ministre de l'économie et des finances, a été constitué quelques jours avant le début de la pandémie. Donc, c'était le plus mauvais des moments, mais ça, ils ne pouvaient pas le prévoir. Donc, il faut regarder avec attention les évolutions du champ politique turc, mais pour autant, Erdogan possède encore des ressources. Et toute dernière chose, c'est ce que Marc a rappelé, c'est très important, sur le Haut-Karabakh, sur la Méditerranée orientale, voire même sur les questions liées à l'islam que nous avons abordées en début d'émission, eh bien, les principaux partis de l'opposition font quasiment cause commune avec M. Erdogan. Alors, il y a l'exception du HDP, le Parti démocratique des peuples, le parti kurdiste, bien évidemment, qui est un véritable parti enraciné dans la vie politique, mais qui est quand même à ce jour très minoritaire.
Merci beaucoup à tous nos invités, à Ahmet İnsel d'avoir été avec nous, nous avoir éclairé sur ce différend entre la France et la Turquie. Petit euphémisme. La nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire, c'est à la découverte. Merci infiniment à vous, Didier Billon, de nous avoir accompagnés également. Géopolitique des mondes arabes, 40 fiches illustrées pour comprendre le monde, aux éditions Erol. Un grand merci à vous, cher Marc Sémo, d'avoir été avec nous, notre partenaire du monde, comme chaque vendredi.